Vous êtes sur Radio B, 90.fm, musique au pluriel, avec Christian Lux, Paul Turchet et Bruno Point. Une nouvelle émission, donc, sur les ondes de Radio B, voit le jour en cette rentrée, ici et maintenant. Son nom nous emmènera dans un temps lointain, une époque d'un autre temps, une musique d'hier, véritable présent pour demain. Elle a été, elle est, elle sera, comme tout amour ou profonde amitié. Dans cette heure sans heure du corps et de l'esprit, nous rejoindrons les rives d'une musique qui n'est ni grande ni classique. Elle est tout simplement accueillante, apaisée et apaisante. Une musique unique et plurielle que mon enfance campagnarde et mon adolescence hendrixienne ou jaguerienne n'ont jamais rencontrée. Sans pour autant l'ignorer, elle m'était autant inconnue qu'étrangère. Aujourd'hui, à l'automne de ma vie, elle m'est devenue une amie, une fidèle compagne qui m'accompagne au fil du temps de mes rêveries capricieuses ou de mes tourments internes. Elle me donne à entendre et à explorer, au tréfonds du corps et de l'esprit, un langage sans mots, un lieu intime jusqu'alors évité ou contourné. Elle révèle en chacun de nous, si nous prenons le temps de la saisir sans l'étouffer, de la laisser vivre dans sa force fragile et émouvante, un espace affectif, un univers corporel et mental, qui apaise, berce nos nuits et éclaire nos jours de spleen ou d'ennui. Au cœur de musique au pluriel, nous irons à la rencontre de compositeurs, véritables créateurs audacieux, quêteurs de l'impossible. Nous commencerons avec et pour vous, auditrices et auditeurs étonnés, surpris ou attentifs, notre promenade avec Ludwig van Beethoven. Nous apprendrons à le connaître, à découvrir son génie créatif, son insatiable esprit de recherche, sa puissance de travail. Nous ferons connaissance avec sa vie d'homme, ses singularités, ses points aveugles ou souffrants, ses trouvailles, sa solitude. Cette émission n'a pu se concevoir, se dessiner, se construire qu'avec l'appui, l'esprit et la participation féconde de deux invités permanents qui nous livreront leurs connaissances et passions pour cette musique ouverte à l'aventure, à la surprise, à l'inattendu. Deux amateurs érudits et sensibles, à l'oreille éclairée et attentive, je donne à présent parole à Bruno Point et Paul Turchet.
Cette émission est consacrée à l'œuvre symphonique de Beethoven, qui comprend 9 symphonies qui vont définitivement asseoir la stature de la symphonie pour les 2 siècles postérieurs, ainsi que des concertos, notamment 5 concertos pour piano et 1 concerto pour violon. Si les symphonies sont exécutées par un orchestre seul, les concertos sont construits avec un instrument soliste et l'orchestre symphonique. Beethoven, ne l'oublions pas, était un pianiste virtuose. Aussi, il aura à cœur de proposer des partitions à son image, larges, amples et pleines de grandeur.
Thank you.
L'histoire de la musique est celle de nombreux compositeurs et de leurs œuvres, œuvres qui marquent leur époque, sont nourries des époques précédentes et, pour les génies, qui marquent des ruptures, à l'image de la peinture ou de l'architecture qu'on voit évoluer au cours des siècles. Avant Beethoven, né à Bonn en 1770 et mort à Vienne en 1827, il y eut, pour les très grands, Bach bien sûr, puis Mozart et Haydn, qui s'éteignent tous deux à Vienne aussi, en 1791 et en 1809, du vivant du jeune Beethoven. Puis après lui, il y eut les grands romantiques du XIXe siècle à qui il a ouvert la voie. Nous venons d'écouter le premier concerto de Beethoven, son troisième mouvement, son final très enlevé, plein d'enthousiasme et déjà riche d'inventions. Cette œuvre de jeunesse, écrite en 1795, Beethoven a alors 25 ans, porte toutefois la marque de Mozart, qui a écrit 27 concertos et ainsi fait évoluer le genre tout au long de sa vie. Beethoven, alors que les pianistes de l'époque et son premier public seront conquis, sera quant à lui insatisfait de son concerto. D'abord car il sera toujours un homme exigeant, mais aussi car il sait qu'il veut produire des œuvres plus personnelles. Il sait qu'il a en lui des œuvres d'une immense stature dans lesquelles il exprimera l'être humain et la violence de la société et de son époque. Paul, je te passe la parole pour nous parler de ce personnage.
Oui, évoquer Beethoven, c'est souvent un mot qui revient. C'est un géant. Il y a aussi parfois le mot titan qui est employé. Je crois que l'expression vient de Berlioz. C'est un titan. Le musicien est un titan, l'homme est un titan, nous le verrons, et sa vie et son œuvre sont indissociables, ils confinent à l'universel. Beethoven affirme la supériorité de l'art et de la musique sur toute autre activité humaine qui doit guider la vie et le cœur des hommes. Et il écrit « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie ». Et la supériorité de l'art musical vient, en fait, de ce que la musique peut exprimer tout sentiment humain, et de là vient sa force créatrice, qui fera de lui, évidemment, le premier compositeur romantique, qui exalte les sentiments. Il écrit « Je n'ai jamais pensé à écrire pour la gloire et les honneurs. Ce que j'ai dans le cœur, il faut que ça sorte. Voilà pourquoi j'écris. La musique est le climat de mon âme. Chaque phrase musicale est un trône de la passion, et la passion elle-même est le trône de la musique. »
Le titan, donc, l'homme qui affirme sa force créatrice sans concession et pleine d'énergie. Aussi, après le premier concerto, œuvre de jeunesse inspirée, voici le troisième concerto, œuvre majeure écrite en 1804, Beethoven a alors 34 ans, il est dans sa maturité. Le premier mouvement de cette œuvre dont nous allons écouter la première partie est un véritable combat entre le soliste et l'orchestre, à l'image de l'humain qui doit affirmer son être profond, le mouvement se terminant toutefois par une fusion entre le soliste et l'orchestre.
Thank you.
Beethoven place son idéal politique dans la défense des valeurs républicaines issues de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, et considère que la liberté est une valeur qu'il faut défendre de toutes ses forces. Il pose comme corollaire de la supériorité de l'art musical que le créateur, l'artiste, doit être libre et indépendant, et ne plus porter la livrée de laquais, comme ses prédécesseurs. Et une anecdote illustre parfaitement cette affirmation. Alors que son mécène de l'époque, en 1806, le prince Karl Lichnowsky, lui demande de jouer, en fait, pour distraire les soldats français qui sont stationnés dans son château, qui a été réquisitionné par les forces françaises, Beethoven refuse, tout net, et même sous la menace d'être mis aux arrêts. Et après une très vive altercation avec son hôte, il lui envoie un billet dont vous mesurez, je dirais, la juste violence. Voilà ce qu'il lui écrit. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. »
La troisième symphonie a été écrite en 1803 et 1804, Beethoven a alors 34 ans. Elle porte le nom « Héroïque », eu égard à son souffle puissant. Mais son histoire est autre. Elle fut écrite en hommage à Bonaparte, fils de la Révolution, qui en ce temps avait apporté la paix en France après les affres de la Révolution finissante et entrepris d'apporter un vent de liberté en Europe, auquel Beethoven adhérait. Son sentiment enthousiaste fut anéanti lorsque Bonaparte devint Napoléon empereur, synonyme pour Beethoven de mégalomanie et de tyrannie, au point que la dédicace sera à la mémoire d'un grand homme pour fustiger l'homme qu'il avait admiré.
Thank you.
Après la liberté, l'égalité. Beethoven considère que l'égalité doit s'étendre à tous les hommes, sans la moindre différence liée au rang social. Il écrit d'ailleurs « Mon art doit se consacrer au bien des pauvres ». Il écrit aussi « Je ne connais pas d'autre marque de supériorité que la bonté ». Igor Stravinsky, compositeur contemporain, écrira « Beethoven, ce génie plébien, méprisait fièrement les empereurs, les princes et autres magnats, et c'est le Beethoven que nous aimons pour son optimisme inébranlable, sa tristesse virile, le pathos inspiré de sa lutte et cette volonté d'acier qui lui permettait de saisir le destin à la gorge. » Nikolaus Harnoncourt, un grand chef d'orchestre qui a beaucoup enregistré Beethoven, lorsqu'il parle de la cinquième symphonie, écrit « Ce n'est pas de la musique, c'est de l'agitation politique. Il nous dit « Ce monde n'est pas bon, changeons-le, allons-y !»
Terminée en 1808, Beethoven a alors 38 ans. La cinquième symphonie était en gestation depuis des années. À l'origine, elle est aussi le fruit de l'enthousiasme de Beethoven envers la Révolution française. Son introduction fameuse l'érige comme le thème le plus connu de la musique dite classique, et elle porte bien son surnom de symphonie du destin. Au-delà de la popularité de ces quelques notes, celles-ci sont le support d'une construction monumentale et riche d'une volonté farouche. Elle porte l'auditeur vers la conscience de la complexité de la vie et du combat permanent mené pour celle-ci. Nous écouterons son premier mouvement dans son intégralité, car il s'agit d'un long discours tout simplement impossible à couper.
après la liberté et l'égalité, il y a bien sûr la fraternité. Ayant posé le principe de la supériorité de l'art musical, parce qu'il exprime tous les sentiments humains, Beethoven considère que la musique est porteuse d'un humanisme universel. À ce sujet, il écrit « Je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la pensée ou par la force. J'appelle héros seuls ceux qui furent grands par le cœur. » Ainsi, il milite pour la fraternité entre les hommes et dit qu'il compose pour ses frères humains. Et en marge du manuscrit de sa messe solennelle, il écrit « Venu du cœur, puisse-t-il retourner au cœur ?» Et il écrira sa plus célèbre symphonie, la 9e, connue de l'humanité entière, dont l'ode à la joie est d'ailleurs depuis 1972 l'hymne européen. Cette symphonie exprime, comme la 5e, l'avait fait auparavant, le triomphe de la joie et de la fraternité sur le désespoir et prend ainsi la dimension d'un message humaniste universel.
Plus apaisé encore qu'exprimant la souffrance, le 4e concerto est abouti en 1806, Beethoven a alors 35 ans. Son premier mouvement débute par le piano, novation apportée par Beethoven qui affirme ainsi suivre son inspiration et l'exigence de son discours, plus que les conventions. Son deuxième mouvement a été associé notamment par Liszt, fervent admirateur de Beethoven, dont il a transcrit les 9 symphonies pour piano seul dans un élan d'admiration. Liszt donc associe ce deuxième mouvement au mythe d'Orphée et d'Eurydice. L'écriture de ce second mouvement est en effet proche d'un récitatif d'opéra et retranscrit les élans et les douleurs de l'amour lorsqu'il s'avère inabouti. Nous écouterons ce second mouvement totalement voué à la beauté et à l'affectif dans sa totalité.
Pour Beethoven, la musique transcende la souffrance. Il souffre d'acouphènes depuis déjà plusieurs années, alors qu'il a 26 ans, et prend conscience d'être affecté d'une surdité qui va irrémédiablement progresser jusqu'à être totale. Il songe alors au suicide et rédige le 6 octobre 1802 son testament dit de Heiligenstadt, que l'on retrouvera après sa mort. Et il écrit « Ô vous, homme qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste, vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Songez que depuis 6 ans, je suis frappé d'un mal terrible, d'année en année. J'ai dû m'isoler de bonne heure, vivre en solitaire, loin du monde. Si jamais vous lisez ceci un jour, alors pensez que vous n'avez pas été juste avec moi et que le malheureux a tout fait cependant pour être admis au rang des artistes et des hommes de valeur. Il s'en fallait de peu que je ne mette fin moi-même à ma vie. C'est l'art et lui seul qui m'a retenu. Il me paraissait impossible de quitter le monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi. »
Quel instrument est plus à même de décrire l'émotion que le violon? Les cordes, animées directement par l'interprète, exprimant ainsi sans mécanique sa sensibilité. Le concerto pour violon exprime le côté lyrique de la personnalité musicale de Beethoven. Pendant 45 minutes, la composition est gouvernée par une harmonie supérieure et par des proportions équilibrées qui font de cette œuvre l'un des sommets de la musique absolue. Il n'y a pas de lutte intérieure, de tragédie, de souffrance ou de passion bouleversante. La mélodie se répand avec une sérénité divine, envahie de la pure harmonie du ré majeur, dira le philosophe allemand Rissler, avec des trouvailles inattendues à la manière de Beethoven qui pourtant n'arrive pas à troubler cette suavité ininterrompue. Nous écouterons une partie de deuxième mouvement, Larghetto lent et élégiaque.
Thank you.
Pour finir, bientôt et hélas, quelques portraits de Beethoven. Le portrait de Romain Rolland dans son livre « Vie de Beethoven ». Il était petit et trapu, de forte encolure, de charpente athlétique. Une large figure de couleur rouge brique, sauf vers la fin de sa vie, où le teint devint maladif et jaunâtre, surtout l'hiver quand il restait enfermé loin des champs. Un front puissant et bosselé, des cheveux extrêmement noirs, extraordinairement épais, et où il semblait que le peigne n'eût jamais passé, hérissé de toutes parts. Les serpents de Méduse. Les yeux brûlaient d'une force prodigieuse qui saisit tous ceux qui le virent, mais la plupart se trompèrent sur leurs nuances. Comme ils flambaient d'un éclat sauvage dans une figure brune et tragique, on les vit généralement noirs. Ils ne l'étaient pas, mais bleu-gris. Petit et très profondément enfoncé, ils s'ouvraient brusquement dans la passion ou la colère, et alors roulaient dans leurs orbites, reflétant toutes leurs pensées avec une vérité merveilleuse. Souvent, ils se tournaient vers le ciel avec un regard mélancolique. Le nez était court et carré, large, un mufle de lion, une bouche délicate, mais dont la lèvre inférieure tendait à avancer sur l'autre, des mâchoires redoutables qui auraient pu broyer des noix. Une fossette profonde au menton, du côté droit, donnait une étrange dissymétrie à la face. Il avait un bon sourire, dit Moscheles, et dans la conversation, un air souvent aimable et encourageant. En revanche, le rire était désagréable, violent et grimaçant, du reste court. Le rire d'un homme qui n'est pas accoutumé à la joie. Son expression habituelle était la mélancolie, une tristesse incurable.
Le dernier des cinq concertos de Beethoven porte comme titre « L'Empereur ». Il n'est toutefois pas à la gloire de Napoléon dont nous avons vu que Beethoven le reniait. Mais il se situe au moment des conquêtes napoléoniennes en Autriche et est un sursaut d'orgueil face à ses désastres. On doit ce titre que l'histoire a conservé à un pianiste anglais contemporain du nom de Cramer, qui probablement entendait ainsi exprimer la grandeur de l'entrée du piano au premier mouvement, le mot « impérial » étant alors synonyme de grandeur. Quant à Beethoven, il avait précisé auprès de ses éditeurs qu'il n'admettait qu'un titre. Le concerto sera dédié à l'archiduc Rodolphe et a pour titre « Il n'a rien que grand concerto dédié à son Altesse impériale l'archiduc Rodolphe ». Écrit en 1808 et 1809, période troublée par la guerre, Beethoven a alors 39 ans et est en sa pleine maturité. Écoutons son introduction grandiose qui nous rappelle que Beethoven, le lion dont parle Romain Rolland, était aussi un grand pianiste de concert. Thank you.
Après, le portrait physique de Romain Rolland, de Beethoven, un portrait plus psychologique et musical, qui résume tout. Joseph Haydn, qui va être son professeur pendant 3 ans, de 1792 à 1794, et qui, en dépit de leur relation assez tumultueuse, va écrire de lui. Vous avez beaucoup de talent, et vous en acquérez encore plus, énormément plus. Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration. Vous aurez des pensées que personne n'a encore eues. Vous ne sacrifierez jamais votre pensée à une règle tyrannique, et vous sacrifierez les règles à vos fantaisies. Car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes.
Ludwig, misère et grandeur, splendeur intérieure, pauvre à l'extérieur, si riche dedans. Qui est à mes yeux, à mes oreilles, Ludwig. Un solitaire obligé, un ascète ou un anachorète, laïque ou païen, un esprit libre. Il se moquait de la grégarité, se tenait sans militance, revendication aucune, hors de toute convention sociale, loin de toute forme de mondanité. Aucune posture, aucun jeu, aucune stratégie dans ce parti pris. Mais sa vérité d'homme, lui, seul face à son désir ou volonté de création. Il ne voulait pas donner dans la répétition d'une musique inchangée, immuable, figée. En lui, dans son lien intime à sa production musicale, pas de place pour le faire le joli ou le divertissement. Pas plaire ou séduire, un être entier, sans compromis. Quête absolue, don total à l'acte créateur. Éthique personnelle exigeante pour donner forme, corps et structure à sa créativité. Mission, sacerdoce, passion, point d'interrogation. Intransigeance de tout instant, Ludwig n'échappe pas à ses injonctions morales, avouées ou insues. Deviens ce que tu es, trouve ta musique. La fois prochaine, donc, Paul poursuivra à nous conter la vie de Ludwig et Bruno, par les illustrations musicales, éclairera le chemin créatif et créateur de Beethoven.
Aujourd'hui, vous avez écouté le premier concerto par Maurizio Pollini et l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction d'Eugène Rocum, le troisième concerto par Lili Kraus et l'Orchestre Philharmonique d'Amsterdam avec Gianfranco Rivoli, la troisième symphonie par l'Orchestre de Cleveland et George Ezel, la cinquième symphonie par Herbert von Karajan et le Philharmonia Orchestra, le deuxième mouvement du concerto numéro 4 par Nikita Magaloff et l'orchestre de la radio de Zurich et Gianfranco Rivoli, le concerto pour violon par David Oistrakh et l'orchestre de la radiodiffusion française sous la direction d'André Cluytens, et enfin le concerto numéro 5, l'Empereur, par Vlado Perlemutter et l'orchestre du Festival de Vienne sous la direction de Christian Wöchting. Je vous invite à consulter les fiches du site de la Philharmonie de Paris, dont nous posterons l'adresse sur le site de Radio B, qui sont extrêmement intéressantes pour découvrir les œuvres et leur découpage. Merci.